Merci à tous d'être venus ce soir. Merci infiniment, Warren Ellis, d'avoir accepté l'invitation de la librairie
Merci
Mola.
Beaucoup.
C'est vraiment un honneur de vous avoir ici.
Merci.
Vraiment. J'en profite également pour ma part à remercier la librairie Mola de m'offrir ce privilège d'être avec vous ce soir. En préambule de la discussion, j'aimerais rappeler quelques éléments sur votre carrière. Vous êtes une des figures incontournables d'abord du rock australien, de la scène de Melbourne, avec The Dirty Three. Vous avez également collaboré à des groupes comme The Three Fields, Black Eyed Susan, qui sont, je crois, qui représentent vraiment, qui ont permis de façonner un son australien dans le rock. Enfin, moi, je le perçois comme ça, avec quelque chose de l'espace, du lointain. Et évidemment, depuis l'album Murder Ballads, vous collaborez avec Nick Cave, et cette collaboration s'est intensifiée. On a un vrai partenariat créatif depuis Push the Sky Away, environ. Et ce qui fait de vous, maintenant, aujourd'hui, non pas uniquement une figure incontournable de la scène australienne, mais de la scène internationale. Voilà. Vous venez nous présenter aujourd'hui ce livre magnifique, Le Chewing-Gum de Nina Simone, que les éditions de la Table Ronde ont eu la merveilleuse idée de traduire. La traduction est de Nathalie Perroni. C'est un objet magnifique. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le livre et nous dire comment ce projet est né et,
L'évolution.
Oui, oui, comment ouais. le désir d'écrire.
C'est, bonjour c'est tout le monde. Je suis ravi d'être là. Et merci beaucoup.
Bon, je vous en
prie. Merci pour l'accueil. 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 Quel magasin?
Mollet.
Mola. Et merci Table Ronde pour cette belle édition de mon livre. Le livre, en fait, ça commençait un peu comme ma carrière en musique par hasard. J'ai une email de quelqu'un qui travaillait à Faber, un mec qui s'appelle Dan Peps. Et il m'a dit, ouais, j'ai vu le Dirty Three et j'ai remarqué que tu racontes des histoires dingues entre les morceaux. Est-ce que ça te dit d'écrire quelque chose? Et je dis, ben, quoi exactement? Et il dit, je sais pas. Et j'ai dit, une espèce de mémoire. Et il m'a dit, ouais, peut-être. Et je dis, non, mais j'ai pas envie de faire ça. Je trouve ça très ennuyeux. Et de raconter ma vie me semble. Je sais pas, j'avais pas envie de faire ça. Et puis en 2019, Nick Cave, il était en train de monter une exposition sur sa vie en Copenhague. Et il m'a demandé est-ce qu'il y avait quelque chose que je voulais mettre dans son exposition. Et je lui ai dit, écoute, j'ai trouvé mon premier violon et j'ai ce morceau de Chewing Gum de Nina Simone. Et puis, il m'a dit, écoute, c'est parfait, c'est exactement ça qu'on cherche. Et voilà, c'est commencé comme ça. Le Chewing Gum, j'avais en fait pris de sa piano en 1999. J'ai vu un concert d'elle, et ce concert a changé ma vie fondamentalement. Et là, j'ai vu une transformation sur la scène qui a changé ma vie. Et après le concert, j'ai vu sa chewing gum sur le piano et je l'ai pris. Et pendant 20 ans, je l'ai gardé dans les endroits différents dans la maison. Et c'est devenu une espèce de totem pour moi, que pour moi. Personne n'était au courant que j'avais cette chewing gum. Et j'étais ravi en fait de que Nick voulait le présenter dans son exposition. Mais j'avais peur en fait que moi je me trouvais comme gardienne de cette chewing gum. Et c'est devenu comme une relique, une relique sacrée. On dit ça?
Oui.
C'était comme une relique sacrée, mais pour moi. Et quand j'ai décidé en fait de faire entrer dans le monde, j'ai vu que ça touchait les gens. Ils étaient émus par cette truc inutile qui vaut rien, mais ils étaient très émus par le fait que c'était le chewing-gum de Nina Simone et que j'avais pris soin de cet objet depuis 20 ans. Et j'ai décidé à ce point-là de faire une copie en argent et en or, parce que bon, j'avais peur si l'original n'était pas avec moi, ou si j'avais rien, que ma vie musicale va en fait éteindre. Et je suis assez superstitieuse. Si vous avez lu le livre, vous allez voir que je suis assez superstitieuse. Et en même temps, je voulais garder une trace de ce chewing gum. Et dans le processus, j'ai aussi remarqué que les gens, ils ont emporté beaucoup d'amour, soin à ce petit bout de chewing gum, et on m'a envoyé des photos et tout ça, et j'ai vu les centaines de photos de la transformation de ce chewing gum et le voyage de ce chewing gum à Danemark. Et j'ai téléphoné Dan, disons, j'ai une idée pour un livre de photos. Parce que moi, des fois, j'étais en larmes quand j'ai reçu les textes avec mes amis comme Anne de Molemiste qui travaille dans le mode. Et elle m'a écrit « c'est comme une cheveux de Christ ». Et là, moi, j'étais en train d'acheter les robinets pour le salle de bain. Et à Bastille, et là je me trouvais en larmes quand j'ai vu ça, et j'étais très ému par l'imagination que les gens pouvaient aller si loin avec ce petit truc. Et alors j'ai dit à Dan, j'ai une idée pour un livre de photos, et il m'a dit écoute, viens passer par le bureau la prochaine fois que tu es à Londres, tu peux présenter cette idée. Et j'étais là pour faire musique pour un film blonde sur Marilyn Monroe, curieusement. Et j'étais dans le studio et c'était juste avant le Covid. On s'est mis autour d'une table, j'ai raconté l'histoire. À la fin de l'histoire, il y avait Alexa qui était en larmes. Juste avec l'histoire, et quand j'ai présenté une copie du chewing-gum, et ils ont dit, on n'a pas besoin de discuter ça, on veut que tu écris ce livre. Et je dis, non, vraiment? Ouais, ok. Il faut que tu fasses 20 000 mots. Et dans ma tête, j'ai dit, ok, 2000 par page. 2000 fois 10, ça fait 20 000. Ça fait 10 pages. Bon, ça, c'est facile. Et Nick, quand je suis arrivé à la studio, je dis, Nick, j'ai un contrat pour faire un livre. Et il m'a dit, tu veux que je fasse l'introduction? J'ai dit, ouais. Et dans ma tête, je me suis dit, bon, ça, c'est un bon moitié de mes 20 000 mots. Il reste 5 pages à écrire. Et je vais faire ça en tournée pour Ghostin, un disque qu'on est sorti en 2019, un truc comme ça. Et puis, il y avait le Covid. Et la tournée était annulée. C'est un peu long, cette
réponse, non? Non, c'est passionnant.
Tu as trois, quatre questions?
J'en ai un peu, c'est bon.
Et j'ai commencé de l'écrire. Et j'ai remarqué deux choses. J'étais pourri avec les maths, parce que c'est beaucoup plus que 10 pages, 20 000 mots, et je ne savais pas comment écrire. Alors, je me trouvais un débutant dans un processus que je ne comprenais pas. C'est ça?
Oui,
c'est comme ça que ça... Et en fait, ma carrière était comme ça avec la musique.
Très bien. Vous parliez de comment vous avez gardé ce chewing-gum et sa mise à disposition des autres. Et je voulais évoquer, c'est vraiment un livre, vous parlez de coffre-fort dans votre livre, de coffre à trésor.
Ouais.
Dans votre livre, et ce livre a un coffre à trésor. C'est-à-dire, il y a la voix des personnes qui vous ont accompagné dans cette aventure,
ouais, ouais.
Que ce soit la préface de Nick Cave et toute la personne qui a fait les bijoux, qui a fait les moules.
Ouais.
Et c'est un livre à plusieurs voix. C'est quelque chose qui s'est imposé directement pour vous?
C'était pas évident au début, mais quand j'ai commencé, j'ai vu qu'il y a plusieurs voix. Et en fait, c'est comme ma vie musicale. Ma vie musicale existe grâce à des belles collaborations que j'ai avec des musiciens. Soit c'est Jim et Mick avec Dirty Three ou Nick et les Bad Seeds. Tout ce que j'ai fait avec... J'ai fait musique pour des films aussi. Soit c'est travailler avec un réalisateur ou... mais toute ma vie musicale, créative, c'est grâce à des belles collaborations. Et le livre était pareil. J'ai vu... Qu'est-ce qui était beau avec l'histoire était par les yeux de les autres. Et souvent, c'est les gens qui me montrent qu'est-ce que c'est. Parce que moi j'ai vu que c'était une belle idée. Mais je ne savais pas comment creuser exactement ou comment écrire. Ouais. Et c'était grâce à des gens autour de moi comme Anne, Oren Moverman, c'est une scénariste que je connais qui est new-yorkaise, des gens qui m'ont aidé de voir qu'est-ce que c'était. Et en fait, je crois que il y a un niveau avec le livre où c'est une recherche, une forme de recherche. Et moi, je vois ça souvent dans le studio. Ça m'a rappelé dans le studio quand je cherche une idée. Et tu trouves une idée très fragile. Et une idée a besoin de l'amour et des gens qui prennent soin de cette idée. Idée. Et pour moi, c'était le processus créatif en physique. Un truc que je sens normalement dans le ventre. Le ventre. Et avec des émotions. Moi, je peux faire 5 jours avec Nick dans le studio. Et le plus part, c'est que la merde. Vraiment, on fait des improvisations. Et puis, il y a des moments... Tu comprends pas, tu les entends, ça fait un mouvement dans le ventre ou émotionnellement, et tu te dis, mais c'est quoi exactement? Comme la musique, j'écoute comme quand j'ai fait écouter John Coltrane ou Beethoven ou David Bowie, le disque Low, je comprenais pas et même je l'aimais pas, mais je voulais savoir pourquoi ça m'a dérangé et voilà, j'ai vu ça avec cette histoire, mais en physique, avec les photos, c'était plutôt, je pouvais comprendre plus que quand le 30 ans de ma vie créative dans le studio.
Merci. Là, j'évoquais la forme du livre, enfin comment il était conçu au niveau du texte, au niveau du contenu. Moi, j'ai vraiment eu le sentiment, et c'est ce qui fait vraiment sa richesse, de lire plusieurs livres en un. Alors, j'ai noté des petites choses comme ça. J'ai noté que c'était à la fois une enquête sur un concert dont il ne reste que très peu de choses, ce concert de 1990.
Ouais.
Vous enquêtez un peu dessus. Une histoire d'une relique, de sa
ouais.
découverte à sa mise à disposition.
Ouais.
Parce que le chewing-gum est vraiment sacré dès le départ. C'est pas vous
ouais.
qui le rendez sacré. Ça, on le comprend très bien. Aussi, une éloge de l'amitié.
Ouais.
C'est vraiment un très beau livre sur l'amitié. et même aussi un manuel d'invocation des esprits.
Ouais.
Est-ce qu'on peut dire tout ça?
Je crois qu'on peut dire qu'est-ce qu'on veut, en fait. le livre, c'est moi, je cherche comment écrire quelque chose, parce que moi, j'étais très angoissé d'écrire. J'avais pas écrit depuis début des années 80. Et ça, c'était pour l'université. Et plutôt, j'ai copié les... Comment on dit? Des essais.
Les devoirs
de mes potes. j'étais pas très dédié comme étudiante. Mais d'écrire, c'était une autre chose parce que c'était un monde. Je sentais comme faux, comme un imposteur. How do you say that?
Un imposteur.
Un imposteur. Et je me souviens, j'ai appelé Nick. Il m'a dit comment ça va? Je dis mais c'est terrible. Je sais pas quoi faire. Et il m'a dit écoute, moi j'ai le même problème. Tout le temps, j'arrive à la page pour commencer un disque. C'est normal. Et ça m'a soulagé. Parce que je sais, avec la musique, c'est toujours... tu arrives dans le studio et tu dis à toi-même, est-ce que ça, c'est le jour que ça va arrêter? Qu'est-ce qu'on va avoir à la fin de la journée? Et ça m'a hanté toute ma vie créative. Je sens maintenant toujours comme j'ai fait un apprentissage avec le processus créatif. J'espère que je vais jamais sentir comme une maître de qu'est-ce que je fais, parce que moi j'ai besoin d'être respectueuse au processus et respectueuse à la musique. Alors, je crois que c'est vrai qu'est-ce que tu dis, qu'il y a plusieurs trucs dedans. Comment tu dis ça?
Plusieurs livres. En
oui, plusieurs ouais. livres. Mais je crois que c'était en fait moi aussi en train de chercher comment je peux raconter cette histoire. Et au bout du moment, j'avais l'histoire, j'avais l'idée en fait pour l'histoire. Et avec Oren... Movement. On a fait des interviews et puis ils étaient transcrits. Et là, j'ai vu que en fait, c'était pas qu'est-ce que je voulais raconter. Mais le truc est pour les gens qui travaillent dans n'importe quel endroit créatif. Dès que des idées ou une idée sort, il y a plus de place pour les autres choses d'arriver. Et j'ai eu ça avec le livre. J'avais une trentaine de pages de l'histoire que je pensais que c'était. Et puis, c'était à ce point-là que j'ai des autres choses. Ils sont venus dans ma tête et ça c'était un sentiment que j'ai compris.
La dédicace du livre, vous dédicacez le livre à nos professeurs,
ouais.
Pas seulement les vôtres, ceux de tout le monde. Et vous avez également mis en exergue une citation d'une chanson de Lou Reed.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cette dédicace?
Ah, dédicace. En fait, moi, j'étais un professeur, et pas un bon. À l'époque, j'étais un alcoolique et accro-héroïne et un prof. Et trois métiers, c'est pas évident. Alors, j'ai décidé de quitter profession de professeur. Et j'ai resté avec le drogue et l'alcool. Et puis, la musique a suivi après ça. Mais pour les dédications, c'est parce que pour moi, c'est le métier le plus important dans le monde. Sans les profs, on est perdu. Mais c'est des professeurs dans mon livre, comme les portes des gens que j'ai fait des collaborations avec, qui me montrent quelque chose, qui fait quelque chose dans moi sortir de son milieu. Et ça, j'ai beaucoup gratitude. Comment on dit ça?
Oui,
gratitude. Gratitude, ouais. Et le texte de Lou Reed, c'était, moi j'adore ce disque, Junior Dad. Mm. Je trouve ça chef d'œuvre. Et j'ai écouté à ce morceau tout le temps quand j'étais en train d'écrire. J'adore ce morceau. Mais je dois ajouter deux choses. Quand j'avais fini le livre, chaque chapitre, j'avais une citation de quelqu'un, Anais Nin, Marcus Aurelius, Beethoven, Camus. Et j'avais des citations partout parce que j'avais pas confiance avec mon écriture. Et j'avais lutté pendant un mois pour les droits, pour les photos et tout ça. C'était un cauchemar. Et puis, Dan Peps de Faber, il m'a dit, bon, maintenant, il faut trouver permission pour tout. Les citations. Et je dis, non, mais tu plaisantes, c'est pas possible. Il y avait une quarantaine. Et il me dit, non, la lettre de Beethoven, ça vient d'où? J'ai dit, bah, je trouvais sur Internet, j'ai fait copie-collie, bof. Et il m'a dit, non, mais il faut trouver si c'est un bon transduction de la lettre, etc., etc. Et j'ai dit, non, je peux pas. Et il m'a dit, écoute, j'ai une idée. Toi, tu sélectionnais un citation, et le reste, on va delete. Et je dis, OK. Et tout de suite, je savais lequel, c'était Lou Reed, et il a supprimé le reste. Il m'a envoyé le texte, et ça, c'était la première fois que j'ai vu ma propre livre. Et c'était comme si j'avais construit avec un échafaudage, et puis, c'était le moment de laisser libre. L'autre chose que je veux raconter, sur la concert, il n'y a rien, sauf les photos qui existent du concert. Il n'y a pas... c'était l'époque où il n'y avait pas des iPhones et tout ça. Et j'ai cherché, je trouvais rien, pas d'enregistrement. Dans l'histoire, mon pote qui a fait la balance, ingénieur du son, il avait enregistré, mais c'était à la fin de la concert, ils ont pris. Et je crois que ça fait 3 semaines ou 4 semaines, j'ai reçu un email. Et dans mon livre, il y a un grand ami de moi. C'était en fait le mec qui m'a présenté à Nick Cave au dîner un soir. Et cette rencontre a changé ma vie. Et Mick Geyer, il s'appelle Mick Geyer. Et il est décédé en 2003 ou 2004. Et c'était un grand professeur. C'est quelqu'un qui m'a montré beaucoup de choses. Il adorait les films, les livres, la musique, conversation. Il adorait conversation. C'était un bijou, ce mec. Il me manque. Il va me manquer jusqu'à fin de mes jours. Je pense à lui tout le temps. Et je l'aimais beaucoup. Et beaucoup, beaucoup de gens l'aimaient aussi. Et là, je reçois un email de son frère. Et là, il écrit, « Hey, Warren, j'ai écouté un interview avec toi où tu parles de ce concert et il n'y avait pas un enregistrement. Alors, j'ai décidé de vérifier dans les fiches de Mick, parce que Mick était à côté à moi à la concert de Nina Simone. Il m'a envoyé une photo de mini-disque Vous vous souvenez, le mini-disque, c'était un petit truc numérique, plastique, fabuleux, des années 90. Et écrit dessus, c'était « Concert de Nina Simone, 1999 ». Et en dessous, il y avait les premières 13 minutes du concert. Et pour moi, c'était incroyable, parce que là, il y avait Mick qui parlait à moi de loin, from beyond. Et j'étais ému et je n'osais pas écouter, en fait. Et après une semaine, deux semaines, j'ai appuyé. Et le premier truc que j'ai entendu, c'était moi et lui en train de rire, de rigoler. Et j'ai éteint. Et j'ai appelé Dan. Et je dis, Dan, tu vas pas le croire. Regarde, j'ai envoyé la photo. Et il m'a dit... Je crois qu'il faut présenter quand le livre poche sort. C'était en septembre. Et j'ai dit, ouais, je crois que c'est le bon moment. Et j'ai fait l'interview avec Marc Commode. C'est un critique de film fabuleux. C'est une des le meilleur critique en Angleterre, peut-être mondialement. Il est incroyable. Et on a fait un discours et je lui ai dit juste avant, c'était enregistrement, je veux faire écouter à des gens dans la salle. Et il m'a dit, t'es sûr? Et je dis, oui, je crois. Il m'a dit, réfléchis. Et tu me demain, on va discuter sur scène. Et bon. J'ai décidé qu'est-ce que je vais faire. On arrive là, on discute comme ça. Et puis, il m'a dit, voilà, j'ai expliqué cet enregistrement, j'ai montré les photos, blablabla. Et il m'a dit, tu vas faire quoi? Et j'ai dit, bon, j'ai décidé, je veux que tout le monde écoute à cet enregistrement. Moi, j'ai jamais écouté. Mais... Quand j'ai libéré le chewing-gum dans le monde, tout de suite ça crée une histoire, ça fait une ouverture, l'imagination du genre et tout ça. Et je crois que c'est un crime si on n'écoute pas. Qu'est-ce que tu penses? Et Marc, c'est un mec comme ça, et il tremblait comme ça, et puis il dit, je pense il faut que tu prends les disques, tu mets dans une coffre, tu demandes quelqu'un à les enterrer dans la terre quelque part, personne sache où ils sont. Et il y avait un dans la salle, et je me mis debout, j'ai pris Marc dans mes bras et il tremblait comme ça, et dans mon oreille il m'a dit, je t'aime. Comme ça, et je dis merci Marc, comme ça, alors on va les enterrer. Et c'était un moment, je crois que c'est un moment qui a le cœur de cette histoire, de protéger les choses sacrées. Ouais. Il y a un truc qui existe, mais c'est enterré maintenant.
Je voulais vous faire réagir en lisant votre livre. Ça m'a fait penser à d'autres choses par escalier. Ce que vous dites sur l'imagination et les reliques, tout ça. Et je voulais vous lire une citation d'un auteur que j'adore, qui est Strindberg.
Ah ouais.
Et ça m'a fait énormément penser au chewing-gum, en fait. Donc je vous lis rapidement. Alors il dit, quand une tribu de sauvages commence à se prosterner devant une météorite, je trouvais l'image de météorite bien, parce que c'est comme on peut dire que le chewing-gum est tombé du ciel, c'est quelque chose de divin. Et qu'ensuite cette pierre continue à être vénérée par un peuple pendant des siècles, elle accumule une force psychique ou bien devient un objet sacré, capable de transmettre son énergie à ceux qui possèdent le récepteur, la foi. Et je trouvais que ça allait très bien, et j'avais également, mais je ne vais pas la lire entièrement, mais Dietz Lorenz, dans ce livre, il rappelle que quand l'imagination est en cours, on est forcément religieux.
Ouais.
Et c'est quelque chose que vous mettez vraiment en pratique dans votre livre, je trouve. C'est sans faire de la spiritualité de bazar, mais il y a vraiment cette notion que l'imagination est quelque chose qui se partage et qui va trouver un ordre presque spirituel entre les personnes. Et vous le dites très bien.
J'ai découvert pendant écrivant que chaque fois j'ai essayé de utiliser les mots plus grands que moi, les concepts plus ça marchait pas. Et j'étais obligé en fait d'écrire simplement dans mes propres mots. Mais ça, c'était un truc. Et en fait, chaque fois que je voulais exprimer une grande idée comme ça, ça marchait pas. Mais je pouvais voir dans mes mots qu'il y avait une idée. Et c'était exprimé plus simplement, sans parler de qu'est-ce que tu parles. Mm. Mais pour moi, ma vie musicale, pour moi, la musique, c'est devenu musique était toujours. J'avais un rapport spirituel avec la musique. J'étais élevé chrétien. Mon père, il a raconté les prières chaque soir. On est allé à l'église et on m'a dit qu'il y avait un Dieu. J'aimais bien les histoires dans la Bible, mais je ne comprenais pas qu'est-ce que ça veut dire un Dieu. Et quand j'ai fait écouter à John Coltrane, là, sans savoir c'était John Coltrane, là, j'ai pensé c'était la voix de Dieu. Et la musique pour moi était toujours un truc spirituel, mais je savais pas, je pensais que c'était comme ça pour tout le monde. Mais la musique, moi j'étais un peu sauvage comme enfant et même comme adulte, je suis un peu sauvage, moins sauvage, mais et j'avais du mal à me gérer, diriger dans le monde. La musique, ça m'a donné quelque chose que je pouvais en fait tenir dessous mes émotions. Ça m'a calmé ou ça m'a excité. Ouais.
Je voulais également.
C'est un bel le Stringberg.
Oui.
Ouais, magnifique.
Merci. Je voulais également, parce que c'est moi en plus, c'est quelque chose qui me touche particulièrement, mais. Et ça va avec toute l'aventure du chewing-gum, cette façon dont vous agrégez les gens autour de vous sur ce projet, que ça devient toujours de plus en plus beau. Il y a du merveilleux qui se crée. Et votre activité à Sumatra, Ellis Park, le refuge que vous avez participé à financer pour les animaux qui ont été maltraités par les humains.
Ouais.
Et si vous pouvez, et pareil, là, il y a vraiment quelque chose quelque chose de collectif.
Oui, pour moi, c'est le même narratif pour moi. Cette idée, quand j'ai lancé le parc, c'était pendant le Covid. Et moi, je suis dans une position maintenant où moi, j'ai pas besoin d'une grande maison, une voiture, je m'en fous avec ce genre de choses. Mais j'avais la possibilité, en fait, d'acheter du terrain et construire cet parc pour les animaux qui peut pas être libéré. On a des singes sans bras, on a des gibbons qui manquent des pieds, on a un aigle sans pieds, on a des ours sans dents, on a des singes qui sont tabassés par les humains, ils sont endommagés cérébralement. On a beaucoup d'animaux qui ils ont besoin d'être logés. J'ai acheté le terrain et puis je pensais que c'était fini. Et puis j'ai découvert qu'il fallait construire et il n'y avait pas de l'argent. Et puis j'ai lancé dans le domaine public. Et là, la réponse était hallucinante. Tous les fonds, toute la musique que j'ai fait, voilà, à ce moment, on a construit des enclos pour les animaux. Nick et moi, on a construit une école et un hôpital vétérinaire. On a réussi de voir plus que 250 000 euros dans un an des donations. Et pour moi, ça fait une ouverture dans mon cœur. Je t'en ai pas comme quand j'ai eu des enfants. Ça fait une ouverture dans mon cœur que en fait, j'avais pas avant. Et le Pâques a fait ça avec moi aussi. Mais je vois comme le même narrative, cette idée de communauté. Parce qu'on a envie de faire notre meilleur. Et pendant Covid, avec le Covid et le lockdown, et avec Donald Trump et tout ce truc, au bout d'un moment, j'avais envie de fermer la porte et juste, ça peut arriver, et moi, je vais oublier. Et je voulais écrire un truc, la beauté de le bien qu'on peut faire comme les humains. Et pour moi, le parc, c'est un symbole de ça. Cette idée de communauté, et l'amour, et de prendre charge de les conneries de les autres. Maintenant, on va faire un film sur le parc avec un réalisateur magnifique, Justin Kurzel. Et là, je suis en train de construire une sculpture du chewing-gum. Ça va être 1 ou 2 mètres à Sumatra. Et j'étais jamais à la parc. Tout est fait par WhatsApp. Et parce que c'était pendant Covid, et puis Nick, il voulait faire une tournée. Un an plus tard, c'est fini la tournée, mais j'ai pas eu le moment d'y aller. Et je vais prendre cette sculpture du chewing-gum, parce que pour moi, c'est comme le parc, c'est un symbole de l'amour, soin et communauté. Et on va faire comme Fitzcarraldo, et on va, je ne sais pas comment, mais on va poser sur, il y a une colline derrière le parc, et on va mettre comme ça, je vais rencontrer des animaux. Mais pour moi, c'est un peu comme la deuxième partie de ce livre. Je ne sais pas si j'ai un autre livre dans moi. Mais pour moi, je crois que ce documentaire, ça va être comme la deuxième partie de ce livre.
Mais c'est ce que je voulais vous demander, parce que je me disais, justement, on envisage une suite avec toutes ces... Enfin, le chewing-gum, il y a encore des aventures, et on envisage très vite une suite quand on vous lit. On imagine déjà une suite.
Je crois que c'est un peu la suite. Et aussi, moi, j'ai plusieurs problèmes pour l'instant. L'original, le chewing-gum, c'est à Montréal. Maintenant, il y a une assurance pour 50 000 $, je crois. Mais c'est déjà pas assez, à mon avis.
Non.
Mais ils ont que ça. Et en fait, c'est assez marrant. C'est fabuleux en même temps. Parce que c'est... Qu'est-ce qu'on protège ? C'est rien, mais ce rien, ça, c'est comme un fusible pour l'imagination. Et ça, j'adore ça. J'adore ça, parce que quand si tu veux sauter, il faut sauter des fois avec rien. Et moi, je vois ça souvent dans le studio quand je fais la musique. Il faut sauter avec des fois n'importe quoi. J'ai un problème. Qu'est-ce que je vais faire quand l'exposition de Nick Cave se termine? Parce que maintenant, c'est dans un coffre-fort. Il y a une alarme, il y a une surveillance. Je ne plaisante pas. Il y a une surveillance 24 sur 24. How do you say the curator?
Le conservateur.
Le conservateur. Elle a peur, elle veut pas le prendre, et j'adore ça. J'adore ça, elle veut pas le prendre. Elle m'a dit des fois, elle se lève pour voir le 3h du matin, pour voir si c'est vraiment toujours là, ce bout de chewing-gum. Et c'est magnifique. Mais moi, je sais pas quoi faire avec le chewing-gum. Quand, quand cette exposition est terminée. Et je sais que je veux trouver un endroit où c'est visible pour tout le monde qui veut faire leur communion avec cette relique sacrée. Parce que c'est pas à moi. C'était jamais à moi. Et maintenant, avec le livre, je vois que c'est vraiment pas à moi. C'est collectif.
Oui, et puis visuellement, le chewing-gum a ça de formidable. Je trouve ça à la fois une matière.
Oui, comment elle a fait cette forme? J'ai essayé avec ma propre chewing-gum, mais c'est parce qu'elle elle avait quand même eu des cocaïnes et champagne.
Oui.
Et peut-être elle, je sais pas comment elle a roulé avec ses dents, mais le forme, parce que ça ressemble à un cœur.
Oui.
Et
vous dites un cristal en croix aussi.
Ça ressemble à ça. Oh. Yeah. Ferme les portes. Non, tu peux les. Oui, il peut les passer. Oui, oui, ça va, j'ai confiance. Fais ma confiance. Mais c'est comme. C'est une forme de cœur. Et. C'est assez petit aussi. Mais ça, la forme, c'est curieux parce que c'est exactement comme une sculpture où j'ai grandi en Australie, à un morceau d'or. Ils ont trouvé. Et ça m'a fait rêver, cette morceau d'or. C'était comme ça, mais la même forme. Et. Ouais.
Oui, ça c'est.
Ouais, tu peux prendre les photos. Et c'est. Oui, pas de problème. Ça va craquer les dents si tu essaies de manger. Et ça, c'est le. Ça, c'était fabriqué par un de Moulemister. Ça, c'est sur le. Dans les photos, celui-là. Il y a deux exemplaires. Elle a une. Et moi, j'ai l'autre. Et on a fait à. Une sculpture, c'est comme une comme la taille d'un cœur. Et on avait, je sais pas, dans le livre, on parle, on va mettre dans le pôle nord, pôle sud, dans le désert. Et je voulais construire cette sculpture. Et puis on a fait une, et on a proposé à le Louvre, musée d'Orsay. Et pas de réponse. Ils sont les connards.
Ils n'ont rien compris.
mais en fait, quand j'ai présenté le livre récemment à South Bank, où le concert s'est arrivé, ça se passait, j'ai décidé que je vais mettre dans où le concert s'est arrivé. Alors, on est en train d'essayer de faire ça. Et comme ça, le public peut voir cette. C'est magnifique. J'ai pas avec moi, mais c'est magnifique. C'est en bronze. Et c'est fait par le fonderie qui a fait. Tu vois, le Cercles sculpteur en Bruxelles. Tout le monde touche pour la bonne chance. Alors, Anne, elle a fait fabriquer cette sculpture là. Ils ont fait beaucoup Père-Lachaise, beaucoup de sculptures Père-Lachaise. Et incroyablement, le patron, il était fasciné par l'histoire, mais il n'avait aucune idée qui c'était Nina Simone. Mais il voulait le faire parce qu'il adorait l'histoire de quelqu'un qui a sauvegardé un bout de chewing-gum depuis 20 ans. Et je trouve ça beau aussi. C'est comme une transformation de l'histoire, de la... What's the meaning?
Il y a un côté processus même alchimique de transformer une matière en de l'or aussi.
Ouais.
C'est de l'alchimie. Ce que je voulais dire, c'est que le chewing-gum, en plus, il a de ça de formidable. C'est que le chewing-gum, il a reçu l'empreinte du divin de Nina Simone. C'est une empreinte, mais également, c'est une matière, un chewing-gum, qu'on peut modeler à l'envie quand on le voit. Et c'est un totem parfait en ce sens-là pour l'imagination. Je trouve que c'est vraiment le totem de l'imagination parce que c'est une matière qu'on peut modeler. Ceux qui la regardent va la modeler avec son esprit comme il veut. Je trouve ça vraiment, vraiment très beau dans ce sens-là.
Bah, c'est ça, c'est très beau. Comment tu décris ça?
Avant de passer aux questions du public, que j'imagine nombreuses.
Tu as les autres questions? Ils sont bien.
Elles sont bien. Bah, c'est très gentil. Bah, je peux vous lire le texte de Dietz Lorenz.
Tu avais combien?
Oh, j'en avais encore 3, 4, 5. Et puis après, 3, 4, je les trouve 5. Comme. Je ah, pense en trouver comme okay. Ça parce que c'est inspirant quand vous
c'est
parlez.
C'est l'improvisation.
Il y en a un petit peu.
Ouais. Ah, génial.
Bah, je préfère. Mais okay. Je peux vous lire le texte de Dietz Lorenz.
Parce que je suis triste ce soir quand je suis dans mon lit et je dis Warren. Tu n'as pas donné cette sympa mec à une chance avec ces questions. Ça va monter.
Mais je vais être hanté de ne pas avoir été assez bon non plus. Donc, non, je vais forcément me dire ça. Parce que je vais me dire, j'ai oublié tel truc. Ouais. Ça va être catastrophique aussi.
Je suis heureux que tu as vu un beauté dans le livre.
Ah, mais il est magnifique. Moi, ça m'a. Il est inspirant. On a envie de faire des choses après de l'avoir lu. C'est de la transmission. D'imagination, c'est d'une bienveillance, et voilà, c'est très inspirant. Bah, et c'est très beau en ce moment.
Moi, j'espère si dans 100 ans, c'est un gamin qui trouve ce livre, qui connaissent personne dans le livre, mais le livre parle à eux et ils disent moi, je peux faire ça. Alors, pour moi, ça serait génial.
Oui, mais je pense que ça sera le cas. Vraiment.
Si on est là dans son temps.
Ouais, pourquoi pas. Mais c'est ça, c'est vraiment un coffre au trésor. Comme toutes les mallettes dont vous parlez.
Bah, dans le livre, il y a pas mal... J'ai vu, il y avait pas mal de coffres au trésor. Mon père, Mon père, il m'a montré un truc magique. Un jour, j'avais 5 ans. Et il était toujours en train de jouer à la guitare, chanter ses propres chansons qu'il a écrites. Et un jour, je dis, papa, comment tu fais ça? Il m'a dit, c'est facile. Il a pris un livre de poésie, il a ouvert n'importe quelle page, il commence à jouer et puis chanter avec le texte. Et pour moi, c'était mon première expérience avec le processus créatif. Et je sais que ça a changé ma vie. Même si je ne savais pas à l'époque, mais il m'a montré. Pas que c'est facile, mais que c'était comme ça. Et il a fait c'était très dur et très naturel comment il a fait ça. Et ouais, je crois que c'était mon première expérience avec le processus créatif. Mon père, il a lu tout le temps, il lisait. J'ai eu au téléphone ce matin. Il a 99 ans et il m'a dit ouais, comment tu vas? Je suis fatigué. Et il pensait que j'étais aux États-Unis et j'étais pas aux États-Unis. Et il m'a dit bon, j'ai écrit un morceau l'autre semaine. J'ai essayé de réécrire un morceau qu'il a fait dans les années 50, mais il y avait une petite voix dans moi qui m'a dit non, ne touche pas. Et alors, j'ai écrit une autre chanson. Et puis, il m'a dit, il n'y a rien comme ça. Quand tu trouves une chanson, ça fait un mouvement dans toi that nothing else does. Et ça, j'étais fatigué, mais c'était magnifique. Il a toujours un esprit ouvert et... C'est grâce à mon père, je crois que je suis devant vous ce soir.
Et vous transmettez très bien ce qu'a dit ce que représente votre père dans votre livre. Vous le mettez en pratique, et on voit cette transmission en pratique dans le livre. Je trouve vraiment il y a une démonstration de ce qu'on peut faire.
Oui, il m'a montré. C'était pas une question de technique, de savoir, de ça. En fait, c'était d'y aller. Et toute ma vie, avec l'exception de Ghostin, le disque on a fait, le dernier disque des Bad Seeds, ça c'était un disque très différent, la création, l'enregistrement. Mais toute ma vie, je peux dire, il y a des fois un truc qui tombe de la ciel, mais 99% c'est travail. c'est travail. Personne va te donner. Il faut que tu travailles. Et ça, c'est moi. J'ai fait ça depuis 30 ans. Même s'il y a rien, je travaille. Et pour moi, c'est le prochain truc. Le prochain projet, c'est le plus important. Je m'en fous avec qu'est-ce qui est derrière, parce que c'est qu'est-ce qui est le prochain truc. Ça, it defines me. How do I say that? Ça me définit, ouais. Le reste, ça c'est à l'arrière. Et le jour que ça marche pas ou il y a rien. J'espère que je suis assez sage pour dire ok, terminé. Moi, j'étais jamais dans la musique pour gagner l'argent. Quand même, c'était sympa quand c'est arrivé, mais c'était toujours pour le travail. Et ça reste toujours une expérience sacrée pour moi. Et je suis, I'm very grateful. J'ai beaucoup de gratitude que je suis toujours là depuis 30 ans. Et c'est aussi grâce à des gens comme vous, le public qui vient au concert, parce que ça c'est aussi important que le travail en fait. Qu'il y a cette communion qui arrive entre les gens et la groupe sur scène, sans ça, ce moment n'existe pas. Et je parle de ça dans ce livre aussi. C'est une forme de communion qui peut changer la vie. Je n'avais pas déplié la serviette depuis 2013. Il y a eu deux longues périodes où je ne l'ai pas regardé. Je l'avais récupéré en 1919, après le concert au Royal Festival Hall. Pendant 5 ans, jusqu'en 2004, j'y avais jeté un coup d'œil de temps à autre. Puis plus de tout de 2005 à 2013. Et de 2013 à 2019, j'avais traversé une nouvelle phase sans toucher au sac. Je ne voulais pas le déranger. Quand Nick m'a parlé de son projet d'expo, j'ai dû aller vérifier que le chewing-gum existait encore. La dernière personne à l'avoir touché était Nina Simone. Sa salive et ses empreintes digitales encore intactes. Le simple fait de le savoir là, niché au creux de sa serviette, me donnait de la force. Comme le dernier souffle de Thomas Edison, conservé dans un tube à essai scellé au musée Henry Ford dans le Michigan. Pendant que Edison agonisait sur son lit, Ford avait demandé à son fils la permission de recueillir le dernier soupir de son père. Il avait posé une rangée de tubes à essai sur sa table de chevet et les avait refermés lorsque Edison avait rendu l'âme. L'âme visible, l'intangible, tangible. L'imagination activée par le rien. Ce rien capable d'éveiller l'imaginaire. L'imagination collective. Ce rien qui pouvait être tout. Une relique de l'une des plus grands concerts que j'ai vus dans ma vie. Ma connexion à une femme touchée par la main de Dieu. Dr. Nina Simone. À un moment, j'avais pensé qu'il avait dû se désintégrer, mais je n'avais pas eu le cœur d'aller vérifier. J'ai préféré l'imaginer encore là plutôt que de le retrouver en état de décomposition. Une sorte de chat de Schrödinger. Je ne voulais pas savoir s'il avait disparu. Je me souviens encore de ces images du monstre du Loch Ness, de Bigfoot et des fées de Cottingley que j'ai regardées en classe quand j'avais 7 ans. Ça m'a procuré de drôles de sensations à chaque fois. Pourquoi aurais-je voulu remettre en cause la validité ou chercher à prouver qu'elle n'était pas réelle? Ça m'a rassuré d'imaginer le chewing-gum enroulé dans sa serviette au fond du sac, guettant une forme de communion. J'étais convaincu qu'un peu de l'esprit de Nina Simone s'évaporait chaque fois que je l'ouvrirais. Et de bien des façons, cette pensée était plus importante que le chewing-gum lui-même.
Merci beaucoup, Anne-Élise.
Merci beaucoup.